Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nouveau numéro de ces chroniques de la vieille Europe. Alors dans le studio, j'ai le plaisir d'avoir Philippe Christel, mais aussi Grégoire Gambier qui ne vient pas souvent, mais cette fois-ci, on vous a avec nous.
Eh bien, je suis enchanté de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors, nous n'aurons pas Pascal Essery qui a eu un empêchement. Alors, on va avoir une émission un tout petit peu perturbée, mais enfin, nous devions recevoir François Bernard Huyg pour son livre Think Tank, quand les idées changent vraiment le monde. On va l'avoir par téléphone, mais il a eu un empêchement de vraiment de dernière minute et on le remercie d'avance. On va l'avoir tout à l'heure vers 10h au téléphone. Donc, on va en fait commencer par l'actualité européenne, mon cher Philippe, et je crois que vous allez nous amener directement en Hongrie, qui eux aussi ont un problème avec l'école.
Oui, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit pays par la géographie, mais grand par l'histoire et grand par la gloire.
C'est beau, ça.
Puisque les Hongrois se sont longtemps battus pour nous sur les marches de l'Europe face à l'envahisseur ottoman. Hein, je sais qu'on ne fait plus de chronologie à l'époque, mais tout le monde se rappellera de la bataille de Mohács.
On les a pas beaucoup remerciés.
1526. Non. Écoutez, je voulais commencer par ça parce que on peut pas faire plus actuel. On est quand même une émission qui est à la pointe de l'actualité. Et j'invite, une fois n'est pas coutume, nos auditeurs qui lisent le journal Le Monde à se plonger dans la page 3 parce que Le Monde est scandalisé. Et c'est important de, quand Le Monde est scandalisé, c'est important de comprendre pourquoi. Le Monde est scandalisé parce que figurez-vous que le pouvoir hongrois a décidé d'imprimer sa marque sur l'école. C'est-à-dire qu'ils interviennent sur les programmes scolaires. Ils changent les manuels scolaires. C'est pas chez nous qu'on verrait ça.
Non.
C'est pas chez nous qu'on verrait ça. Alors, il faut que vous sachiez quand même, parce que peut-être qu'on se dit, bah tiens, les Hongrois, ils ont fait avant les Français les ABCD de l'égalité, les gender studies, etc. Alors, c'est pas exactement ça ce que fait le gouvernement de Viktor Orban. C'est principalement des textes qui sont remis pour insister sur les accomplissements spirituels extraordinaires des Hongrois pendant leur histoire, de manière à bien se pénétrer des forces de l'identité hongroise. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir à quel point c'est scandaleux. Dans le préambule d'un document qui est destiné à des élèves de 10 ans, le préambule reproduit une image du sacrifice de Titus Dugovitch. Alors Titus Dugovitch, hein, il faut quand même être hongrois pour savoir ce qu'il c'est. Eh bien, c'est un soldat chrétien qui, au XVe siècle, aurait entraîné dans la mort un adversaire ottoman plutôt que de le laisser planter son drapeau sur une forteresse. Et ça, quand même, ça va grave. Pas bien. Ça, c'est grave.
Alors, pour le vivre ensemble, c'est pas terrible, quoi.
Il y a pire.
Ah bon.
Il y a pire. C'est que le gouvernement a rendu obligatoire des cours de... Alors, nous, en France, on a des cours d'éducation civique obligatoire où on va parler de lutte contre les discriminations. Hein, ça, c'est obligatoire. Alors, les Hongrois sont un petit peu plus ouverts, c'est-à-dire que c'est soit un cours de catéchisme, soit un cours d'éthique. Et alors, figurez-vous, c'est dingue, le choix est laissé aux parents. En Hongrie, c'est les parents qui choisissent ce que leurs enfants vont pouvoir faire.
Alors que l'État ne peut pas intervenir.
Non, ils n'ont pas un sénateur socialiste pour dire que les parents appartiennent à l'État en France. Ils n'ont pas ça en Hongrie. Donc c'est une mesure, plus sérieusement, qui a été approuvée par 63% de la population. Et alors, bien évidemment, on a des livres de morale qui dressent une longue liste des vertus à cultiver pour que notre nation puisse être forte, je cite. Alors on commence par, il y a la foi, l'espérance, la charité, l'héroïsme, la piété. Alors ça va très loin, puisque figurez-vous que écrans et téléphones portables y sont présentés comme nocifs, car détournant les enfants des activités saines telles que le sport ou les danses folkloriques. Donc on voit tout de suite, hein, l'inspiration totalement totalitaire de ce planning. Alors ce qui est drôle, c'est que le monde quand même interroge l'administration et donc auprès du Premier ministre, et donc qui confirme d'ailleurs le projet de renouveler l'ensemble des manuels scolaires d'ici à 2018. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est en réaction aux résultats du dernier test PISA en 2012 qui ont été un choc pour les Hongrois qui ont eu une très mauvaise note. Alors nous aussi, on a eu très très mauvaises notes, mais du coup, on va s'occuper du gender studies et de la discrimination. Comme ça, on aura certainement des meilleures notes. En revanche, eux, ils ont revalorisé les salaires des enseignants parce qu'ils ont quand même pas le déficit budgétaire qu'on a. Donc voilà, je voulais commencer par ça parce que c'est quand on se retourne sur ce que nous venons de vivre ces quelques dernières semaines avec la pantalonnade du gouvernement sur ce qui est réellement étudié dans un certain nombre d'écoles françaises et soutenu bien sûr par la bonne conscience du monde, on ne peut que se pincer, bien évidemment.
Grégoire Gambier.
Oui, donc je vais pas engager le débat maintenant parce que je crois que tout à l'heure nous aurons avec François-Bernard Huyghe l'occasion d'échanger sur la façon dont les idées changent ou gouvernent le monde ou modèlent les décisions. Là, nous sommes déjà, je vois bien le côté taquin de Philippe Christel qui d'entrée de jeu veut engager le débat là-dessus, mais je pense qu'on va pouvoir le approfondir tout à l'heure sur les rapports de force qui se structurent, y compris dans le domaine des idées, des représentations et des décisions politiques.
Alors, toujours en Hongrie et sur des logiques plus court terme, vous savez que le 6 avril, vous savez, vous ne savez pas, mais le 6 avril, ce sont les prochaines élections législatives en Hongrie. Je rappelle que lors du mandat précédent, le parti de Viktor Orban, le Fidesz, avait largement écrasé les socialistes sortants, qui s'étaient quand même caractérisés par toute une série de scandales et surtout d'échecs, avec à ses côtés une très forte représentation du parti Jobbik. Le Fidesz avait d'ailleurs à cette occasion obtenu non seulement la majorité absolue mais plus des deux tiers lui ayant permis de modeler et de changer un certain nombre d'éléments de la constitution. Et bien évidemment on nous avait expliqué que le peuple hongrois allait très certainement vouloir chasser ces tyrans. Et bien en fait il n'en est rien. Figurez-vous que le parti de M. Orban est largement favori pour les législatives et que la vraie question c'est est-ce qu'il aura toujours sa majorité des deux tiers, ce qui, convenez-en, est une angoisse relativement agréable pour des élus, quels qu'ils soient. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà des mesures et de la reprise économique dont bénéficie la Hongrie, le parti de Viktor Orban s'est illustré, je pense qu'il est encore un peu tôt pour en faire un bilan puisqu'il est toujours en place, mais s'est illustré depuis ces quelques années par une reprise en main absolument complète de ce pays. On l'a constaté dans la volonté institutionnelle de reprendre des centres de décision et des prises de décision en Hongrie. On l'a constaté sur la partie économique. Vous savez que la Hongrie, comme beaucoup d'autres pays d'Europe centrale, encore qu'avec la Tchéquie, la Hongrie fait partie de ceux qui sont les plus industrialisés et les plus structurés. Donc la Hongrie a été littéralement dépouillée par les grandes entreprises et principalement sur les réseaux d'infrastructures, sur l'énergie et même sur ces terres agricoles. Et pourtant, la Hongrie, c'est pas grand. Eh bien, depuis 2-3 ans maintenant, la Hongrie a systématiquement récupéré, y compris d'ailleurs en expropriant et en indemnisant peu les grands acquéreurs, principalement des monopoles d'État voisins ou des grandes compagnies allemandes, il faut le reconnaître. Donc ça a ému beaucoup les Allemands et surtout les Autrichiens qui se sont fait beaucoup exproprier, notamment de terres agricoles. Et donc la conséquence pour la Hongrie, ça a été bien évidemment la maîtrise de son destin, mais également une baisse très importante des coûts pour ses propres citoyens sur des dépenses de première nécessité comme l'énergie. Le sujet a été le même en ce qui concerne les banques, puisque l'effet direct de la crise des subprimes, vous savez que, si vous en souvenez, on s'est rendu compte que beaucoup de banques allemandes, notamment dans le sud de l'Allemagne, avaient été particulièrement fragilisées, et donc la Hongrie en a profité pour mettre un terme à cette opération-là en fluidifiant et en nettoyant, en apurant le secteur bancaire hongrois. Et alors bien sûr, là on cite bien évidemment cette phrase de Viktor Orban qui dit « Tout le monde va se mobiliser contre nous, les banquiers mielleux, les multinationales avides, les bureaucrates bruxellois et bien sûr leurs laquais hongrois, c'est-à-dire nos adversaires politiques. » Bref, que de pléonasme dans cette phrase.
Ce qui est intéressant dans l'expérience hongroise, c'est que dès le départ, l'Europe avait dit « De toute façon, le programme de Viktor Orban est impossible à faire, l'Europe n'a strictement rien fait, il a pu faire à peu
peu près ce qu'ils voulaient.
Bah, non seulement l'Europe n'a rien pu faire, mais l'Europe est allée au-delà de simplement considérer que son programme pouvait ne pas être applicable, puisque Orban a été montré du doigt et n'a dû sa survie, si j'ose dire, au fait que son parti, le Fidesz, était un des partis membres du Parti Populaire Européen, le PPE, le grand groupe majoritaire de la droite libérale et centriste au Parlement européen, ce qui fait que ça a un peu gêné aux entournures le reste de la droite européenne, qui n'a pas pu stigmatiser Orban comme elle avait en son temps stygmatisé le FPE de Jörg Haider.
Ce qui montre quand même le vrai pouvoir de l'Europe, là.
Alors, on va, bien évidemment, je pense que le titre le plus important aujourd'hui, et qui ne surprendra pas nos auditeurs, c'est bien évidemment la situation ukrainienne. Nous en avons déjà beaucoup parlé, et nous en parlons régulièrement dans nos différentes émissions, puisque c'est un conflit, parce qu'on peut parler d'un conflit qui ne se calme pas. Qu'est-ce qu'on peut résumer ? Il y a peut-être deux choses sur lesquelles je voudrais appeler l'attention de nos auditeurs au cours de cette émission. La première, c'est de reprendre un petit peu les différents poncifs médiatiques que l'on entend au sujet de la crise ukrainienne. Et la deuxième, c'est, vous savez que le 28 janvier dernier, donc la semaine dernière, s'est tenu le sommet entre l'Union européenne et la Russie. Nous en avons eu une relation dans les journaux français. Je pense que c'est intéressant de voir ce que les Russes en retirent. Et en tout cas, je vais insister sur une proposition qui a été faite par Vladimir Poutine et que je n'ai pas vue reprise dans les journaux français, mais j'ai dû être distrait. La première chose donc que je souhaite faire, c'est peut-être balayer les différentes désinformations, car nous sommes en plein cœur d'une déformation sur la manière dont les médias occidentaux relatent cette situation en Ukraine. Je pense que je reviendrai pas sur ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir que dans la vision du monde géopolitique américaine et partant otanienne ou atlantique pour ce qu'il en reste, et même si l'enjeu prioritaire est désormais le Pacifique, il faut, et justement parce qu'on va quitter la zone européenne, il faut quitter cette zone en ayant poussé le plus loin possible les logiques de containment, donc de contention, en refoulant vers le continent, vers cette Eurasie, ce qu'on appelle le rollback, les différentes influences russes. J'ai cité la dernière fois cette phrase de Brzezinski qu'on ne présente plus et qui disait « Enlever l'Ukraine à la Russie, elle n'est plus un empire ». Nous avons connu en 2004-2005 la première révolution orange. La première révolution orange a été pour les Américains objectivement un succès, puisque d'une élection présidentielle qui avait installé Yanukovych, l'actuel président, ils ont obtenu le revenir sur cette élection. L'élection du dénommé Yushchenko, qui était le Saakashvili local, qui à l'élection présidentielle suivante a fait 7%. Il y a eu la pantalonnade de Timoshenko. Bref, comme en Géorgie, les élites ou soi-disant élites mises en place pour gouverner le pays ont failli, et ont failli d'autant plus que la Russie a tout de suite réagi en privant l'Ukraine de sa manne principale, qui est le fait que les oléoducs passent par son sol. Hein, c'est Nord Stream et c'est South Stream, j'y reviendrai. Aujourd'hui, le match retour, si j'ose dire, où la belle devait être l'occasion de se prononcer pour l'Ukraine sur ce fameux partenariat européen, on va pas revenir dessus, l'Ukraine a clairement, mais pour des raisons objectives, décidé que... compris qu'elle n'avait pas d'avenir autre que moral à s'allier à l'Ouest aujourd'hui, tant ses économies, tant les différents niveaux de son économie sont interdépendants avec la Russie. La Russie a mis sur la table 15 milliards de crédits et a, si j'ose dire, sauvé l'affaire. Et depuis, c'est le chaos à Kiev, et à Kiev principalement. Dans les différentes, dans ce qu'on entend un petit peu partout, et là je vais essayer de faire preuve de pédagogie auprès de nos auditeurs, histoire de leur donner eux-mêmes des munitions pour être présents sur ce sujet, parce que avec l'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi, vous avez déjà regardé un certain nombre de d'émissions de télévision ou de presse qui commencent le dénigrement absolu de ce que fait la Russie. Donc on va entendre ça pendant un certain moment, et je pense qu'il faut un minimum de munitions. Premièrement, on essaie de nous faire croire que les Ukrainiens qui manifestent se battent pour lutter contre un président qui serait illégitime. Je rappelle que ce n'est pas vrai. Le président Yanukovych, qui est aujourd'hui en place, a été élu en février 2010. Et je rappelle que le scrutin a été déclaré par l'OSCE. Hein, l'OSCE qui envoie systématiquement ses observateurs en Russie ou ailleurs, le scrutin a été déclaré transparent et honnête. Et je rappelle que c'est à cette occasion que l'ancien président issu de la révolution de couleur avait lui obtenu 5,5% des voix. Donc Yanukovych est tout aussi légitime que Poutine, Obama ou Merkel en l'espèce. Deuxièmement, on nous dit que les Ukrainiens qui manifestent se battent pour l'Europe. Je crois que ceux qui se manifestent aujourd'hui et avec la plus grande violence, à l'évidence, ne le font pas pour l'Europe. Est évident que la décision de Yanukovych a déçu toute une partie de militants qui s'imaginaient trouver leur avenir. On l'a vu dans les manifestations qui ont été montées en épingle contre Poutine à Moscou et moins à Saint-Pétersbourg. Il y a aujourd'hui une nouvelle bourgeoisie jeune, éduquée, qui a ses intérêts professionnels et qui se projette dans une économie mondialisée et pour laquelle, bien évidemment, rejoindre le cœur des nations ou en tout cas le cœur des économies occidentales fait partie des envies ou des ambitions. Donc il est logique je comprends que cette population-là ait été déçue. Aujourd'hui, ça n'est pas vrai, et d'ailleurs, on voit très bien que une partie de ceux qui se battent sont d'ailleurs des nationalistes ukrainiens qui sont d'ailleurs particulièrement radicaux. J'y reviendrai. Il est d'ailleurs étrange que on tolère et on encourage des gens qui rendent hommage à Stéphane Bandera. Stéphane Bandera, c'était le principal collaborateur des Allemands pendant le début de l'occupation allemande de l'Ukraine. Après, ça s'est gâté. Et donc, est évident que les nationalistes ukrainiens qui se battent à Kiev pour le renouveau de la nation ukrainienne ne se battent pas pour se battent davantage pour une fraternité blanche et européenne que pour un ralliement à l'Europe de Bruxelles.
Si vous permettez, Philippe Christel, le nationalisme ukrainien a des racines un tout petit peu plus profondes que la simple collaboration éventuelle avec l'occupant allemand. C'est pas le mouvement Oustachi non plus. Il a préexisté même à la révolution bolchevique, et sous les armes du Trident, il s'est opposé à la fois aux armées blanches et à l'armée rouge de Trotsky. Donc il y a quand même un vieux, il y a une vraie racine. Qu'on l'accepte ou non. Enfin, après, c'est autre chose. Mais au regard de l'histoire et de la tectonique des plaques politiques, le nationalisme ukrainien existe. Alors, il est plutôt à l'ouest du pays. Je pense que vous allez faire un peu de géopolitique appliquée au sein des frontières ukrainiennes, à l'ouest et au nord. Mais il n'est pas pour autant inexistant. Donc, c'est une donnée qui doit être prise en compte sur l'échiquier actuel.
Et qui est aussi une épine dans le pied de ce petit mouvement pro-européen, parce que.
Okay. Était complètement dépassé,
qui a été dépassé, et c'est très assez marrant que les journaux français n'ont strictement rien vu, n'ont pas vu la moindre croix celtique, le moindre là-dessus, ils n'ont rien vu. Ils les ont pas vus.
Non, mais ce sont plutôt des tridents que des croix celtiques dans cette région.
Oui, enfin, il y a eu. si on voit bien les photos, il y a quand même des choses qu'on n'accepterait pas.
Pour plus prolonger que répondre, puisque je suis tout à fait d'accord. Mon propos n'était pas de dire que ce nationalisme était récent fabriqué. Ex nihilo. On sait très bien, c'est tout le paradoxe, et ça rappelle d'ailleurs toute proportion gardée la Serbie et le Kosovo. C'est que aujourd'hui la Russie elle-même se définit comme ayant son berceau autour de Kiev. Donc, et puis il y a eu effectivement, je crois que je l'avais dit il y a un mois, pendant 150 ans il y a eu un royaume polono-lituanien avec appuyé sur l'Ukraine, qui a été particulièrement éblouissant. Je rappelle que les Russes se sont enfin débarrassés des Suédois à Poltava en 1719. Poltava, il faut regarder une carte et vous imaginez, quand vous voyez là, Poltava, c'est l'Ukraine, donc ce qui est, rend hommage aux armées suédoises. Du coup, après, ils ont fini. Après, ils ont fait des meubles en kit parce que c'était quand même plus simple, parce qu'ils sont quand même pris une raclée dont ils se souviennent encore.
Oui, ils étaient arrivés loin.
Mais ils étaient arrivés loin. Ouais. Ils arrivaient loin, mais bon, il faut rien. C'est souvent ça la Russie. On arrive assez loin, ouais. Puis quand même, faut rentrer.
Il y a un moment où on se
et là, Charles XII, Napoléon, Hitler et j'en passe, quand même eu du mal à rentrer. Bon. Mais en tout cas, pour revenir à ce que l'on disait, il y a quand même, si vous voulez, un problème, et ça fait partie de la désinformation, c'est-à-dire que, vu de Sirius, un habitant d'une autre planète qui voudrait comprendre quels sont les standards de l'Occident en matière de d'expression et de répression policière, aurait quand même bien du mal à comprendre. On le citait sur l'expression très radicale de ces nationalistes. J'irai même plus loin. Je vous signale que on a même entendu le grand rabbin d'Ukraine se plaindre et appeler à l'aide parce que la communauté juive ukrainienne se faisait agresser par les manifestants pro-européens et qu'une partie d'ailleurs des effectifs de la police ont été distraits pour protéger les nombreuses synagogues de Kiev et des grandes villes des différentes manifestations pro-européennes. Quand on pense ce qui est tombé sur le nez du brave Dieudonné, pour moins que ça, on cherche à comprendre les doubles standards. De la même manière, il faut regarder les images tout à fait... Enfin, c'est le principe de l'image. L'image sidère. Donc, on regarde le camp retranché de la place Maïdan. On voit bien que les manifestants sont particulièrement équipés, préparés. Il faut regarder comment les gens sont habillés. Donc il y a effectivement des structures qui sont paramilitaires. Enfin, ça fait très effectivement partis miliciens, etc. Donc les gens s'organisent pour renverser un État. Quand on voit comment notre cher Manuel Valls réagit face à la gentillette éruption de jours de colère ou la manif pour tous qui devrait rappeler les heures les plus sombres, patati patata. On a du mal à comprendre les standards. Ce qu'on ne sait pas également, c'est que une partie du soutien des opposants à l'exécutif actuel se fait par le traditionnel biais des réseaux sociaux. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les opposants publient les noms, photos, adresse personnelle des responsables de la police et de la justice. Je mets au défi n'importe quel justiciable de France aujourd'hui, et quel que soit le motif de sa condamnation judiciaire, de la fraude fiscale jusqu'à ce que vous voudrez, de mettre sur un profil Facebook « Le juge qui m'a condamné est un salopard, c'est monsieur Dugenoux qui habite à telle adresse ». Pourtant, on trouve son adresse dans le Wouzou, hein, généralement. C'est un haut magistrat, il est décoré, enfin bref. Bon, donc j'engage qui que ce soit à faire cela. Donc on est sur une logique de volonté de déconstruction d'un État. Et j'ajoute que je trouve plutôt Yanukovych et son armée, qui lui a témoigné son soutien, plutôt prude dans la manière dont les réactions sont faites. On oublie aussi qu'il y a eu probablement effectivement 3 morts chez les manifestants. Il y a au moins 2 morts, si ce n'est 3, chez les forces de l'ordre. Quand vous allez sur les médias russes, vous voyez, c'est amusant d'ailleurs, vous voyez les images de manifestations qui sont prises de l'autre camp. Vous voyez des policiers russes, des policiers ukrainiens qui sont enflammés dans des cocktails Molotov. On a dans les prisonniers. Les prisonniers qui ont été faits par les policiers, on trouve des Polonais, on trouve des Biélorusses. On a également une ingérence qui a été dénoncée d'ailleurs au sommet Union européenne-Russie par Vladimir Poutine. On a une ingérence qui est absolument totale de la part des pays européens. On a vu bien évidemment John Kerry offrir son soutien aux manifestants. On a vu le sénateur, comme il s'appelle déjà, McCain, un spécialiste de la subtilité, qui est quand même intervenu à Kiev en disant que l'Europe rendrait l'Ukraine meilleure. Le parti Oudar, qui est le parti du boxeur Klitschko, est un parti qui est soutenu officiellement par la CDU allemande. C'est officiel, c'est un parti frère, etc. Donc, imaginez un instant N'importe lequel de nos partis politiques soit officiellement soutenu par une organisation étrangère. Et alors vous allez me dire, oui, ça a existé pendant 30 ans, ça s'appelait le Parti communiste. Et c'est vrai.
Et il y a l'international socialiste encore aujourd'hui.
Il y a l'international socialiste, absolument. Imaginez qu'un ministre d'une autre grande puissance que la France vienne chez nous donner des leçons à notre gouvernement ou exciter nos opposants. Bien évidemment que notre État réagirait. Donc, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, dans le rapport de force, tant les médias que les politiques de l'Ouest se permettent des choses avec l'Ukraine que la Russie ne fait pas avec l'Ukraine. Et que personne n'a fait avec quelque autre pays que ce soit. Et je vais en donner une dernière, parce que c'est quand même la plus... Je n'y croyais pas quand j'ai vu cette information. Catherine Ashton. Vous savez que Catherine Ashton, c'est notre tout à fait séduisante représentante pour la politique étrangère de la Commission européenne. Et donc, elle s'est rendue à Kiev. Elle y est d'ailleurs aujourd'hui. Elle y sera encore demain. Et figurez-vous que quand elle y est allée la semaine dernière, elle a fait, bah évidemment, elle a fait une conférence de presse. Hein, elle venait pour, bien évidemment, pour indiquer que, en fait, l'option européenne était toujours sur la table, que l'Union européenne allait prendre un certain nombre d'initiatives. Mais figurez-vous que les journalistes russes se sont vus interdire l'accès au point presse. Donc ça veut dire que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, qui représente cet organisme, l'Union européenne, qui est une espèce de parangon de toutes les vertus des droits de l'homme et, entre autres, de la liberté de la presse, eh bien, fait sa conférence de presse avec exclusivement les représentants qui sont invités par les organisateurs, c'est-à-dire les journalistes occidentaux et les journalistes ukrainiens. Dans la conférence de presse, consigne a été donnée de tenir secret le lieu d'organisation de la conférence pour être certain qu'on ait bien ce qu'on voulait et pas les autres. Donc voilà des exemples où il est important que nous sachions comment cette opération est menée. Qu'est-ce qu'il va en sortir ? Difficile. Rappelez-vous que à ce même micro, lorsque nous avions appris la décision de l'Ukraine, je vous avais dit que la partie était loin d'être terminée. Aujourd'hui, bien malin, qui peut dire comment ça va se terminer ? Le sommet, d'ailleurs, Union européenne-Russie a été plutôt moins tendu que prévu là-dessus. Et c'est là-dessus que je voudrais... tout le monde s'attendait à ce que Poutine vienne défendre les Ukrainiens, attaquer les Européens, etc. Donc certes, Poutine a dit pas d'ingérence, arrêtez de vous ingérer. La déclaration de Poutine dit ce que nous devrions faire plutôt que de créer de nouvelles lignes de démarcation, ce serait travailler ensemble à la création d'une Europe unie. Nous avons les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. C'est ça que nous devrions travailler ensemble. Je pense que Poutine n'est pas dupe, il sait qu'il parle le langage des sourds, malheureusement, pour ceux qui ne veulent point entendre, mais il y a là, la Russie a essayé de faire passer le message que la décision de l'Ukraine, dans l'état de dépendance économique de l'Ukraine, ne peut pas être une décision que seule l'Ukraine prend. Forcément, c'est une décision qui impacte la Russie. Encore faut-il que les partenaires de la Russie le comprennent. Encore faut-il que face à Vladimir Poutine, il y ait des partenaires et pas simplement des adversaires.
Merci Philippe. On va faire une petite pause et vous allez retrouver les chroniques de la vieille Europe avec notre invité par téléphone d'ici une poignée de secondes. De retour dans ces chroniques de la vieille Europe, nous allons avoir maintenant, après avoir parlé de l'Ukraine avec Philippe Christel, nous allons avoir François-Bernard Huyg au téléphone. François-Bernard Huyg, vous m'entendez ?
Bonsoir, oui.
Bonsoir, merci beaucoup. Je sais que vous avez eu un imprévu de dernière minute, vous n'avez pas pu être dans ce studio, mais nous avons la chance de vous avoir par téléphone. Vous venez de sortir aux éditions Vibert, Think Tank, Quand les idées changent vraiment le monde. Alors on va se faire hurler dessus parce que le mot Think Tank est un peu interdit à Radio Courtoisie. Je me suis aperçu qu'en lisant votre livre, il n'y a pas vraiment une traduction pour ce mot-là.
Oui, car c'est un terme d'argot, d'ailleurs dont l'origine n'est pas tout à fait certaine. Certains disent que c'était le mot d'argot pour la tête au sens de la caboche, la pansarde, comme on dirait en argot. Pour d'autres, c'était le bunker où l'état-major faisait ses plans à l'abri des obus, donc l'endroit où on pouvait s'abriter du danger pour faire des plans à plus long terme. Et dans tous les cas, c'est un terme d'argot qui est apparu bien après le phénomène lui-même. Alors on discute pour savoir de quand date premier think tank. Certains pensent que c'est la société des Fabiens à la fin du 19e siècle. D'autres penchent pour des institutions américaines. Enfin, peu importe, mais ça n'est pas nouveau.
Quelle est la grande différence entre ce qu'on trouve en France avec les fondations, les cercles ou même les lobbies? Parce que je me suis quand même aperçu que vous expliquez que dans les classements des think tanks, on retrouve des ONG.
Oui, et d'ailleurs, il y a un classement qui est sorti très récemment, qui est produit par l'université de Pennsylvanie, qui s'appelle le Global Goat Think Tank, donc qui est une sorte de l'équivalent du classement de Shanghai pour les universités, hein, pour dire simple, qui a examiné pas loin de 7000 think tanks à travers le monde. Et alors, effectivement, personne n'est d'accord sur la définition exacte. D'ailleurs, ce centre de l'université de Pennsylvanie travaille sur les sociétés civiles et ils classent Amnesty International ou Transparency parmi les think tanks, alors que ce sont pour moi des ONG. Mais là, vous n'arriverez jamais à obtenir de deux spécialistes qui soient d'accord sur la même liste de think tanks ni sur la même définition exacte.
Alors, votre définition, les think tanks sont inventés, on pourrait dire, en Angleterre, mais c'est surtout aux États-Unis qu'ils vont se développer. Quelle est la définition, en fait, d'un think tank?
Alors, il faut que ça soit un centre de recherche et d'influence orienté sur des problèmes de pratique politique. Alors, centre, je dirais qu'il faut être plusieurs, il ne faut pas se contenter d'avoir une revue, il faut avoir une certaine surface sociale, des locaux par exemple, des choses comme ça. De recherche, il s'agit de produire des idées nouvelles, hein, ou des analyses nouvelles, donc on ne répète pas comme à l'université, enfin pour les mauvais profs en tout cas, ce qu'on avait enseigné l'année précédente ou ce qui fait partie du corpus académique. Ce sont des centres de recherche, ils cherchent à influencer les pratiques politiques. Donc, ils cherchent à suggérer des idées aux gouvernants ou à répondre à des demandes des gouvernants, des ministères, qui se demandent comment résoudre un problème ou comment penser un problème futur. Pour la petite histoire, comme je suis moi-même directeur de recherche dans un think tank qui s'appelle l'IRIS, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, alors, c'est vrai que il y a des lobbies qui cherchent à agir à travers la production d'idées, de bonnes solutions ou de fausses solutions. Un think tank ne devrait pas être au service d'intérêts particuliers en principe. Et par ailleurs, c'est pas non plus un cercle académique ni une chapelle intellectuelle, en ce sens que les idées qu'il produit sont censées avoir une application pratique et inspirer des gouvernants.
Oui, on pourrait dire aussi que l'approche par exemple en communication est assez différente. Vous expliquez que qu'un think tank doit avoir des représentants qui soient capables sur un plateau télé d'expliquer un sujet en 3 minutes, qui doit être capable d'être à l'aise dans les cocktails, dans les conférences. C'est pas du tout la même chose que l'université par elle-même ou les centres de recherche traditionnels.
Voilà, c'est exact. Alors bon. Il faut qu'il soit allé sur un plateau de télévision et dans un cocktail. Bon, j'espère qu'il ne se réduit pas à ça, parce que ce sont des choses que je fais aussi en tant que chercheur dans un think tank. Oui, alors, il y a une part, si vous voulez, on imagine mal le chercheur de think tank comme une sorte de pur intellectuel isolé dans sa bibliothèque, produisant un gros volume tous les 5 ans, ou écrivant dans des revues à faible diffusion. C'est vrai que produire des idées, ça qu'ils soient appliquées, ça suppose d'une part d'avoir un certain contact avec les gouvernants, avec les gens de pouvoir et avec les médias. D'ailleurs, pour prendre un exemple, il y a quelques heures, enfin quelques minutes presque, j'étais à l'IRIS où on faisait une présentation du rôle international des think tanks avec un ambassadeur, le représentant d'un grand hebdomadaire, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une fréquentation des cercles du pouvoir politique ou pouvoir intellectuel qui est un petit peu obligatoire lorsqu'on est dans un think tank. Il faut savoir communiquer, il faut parfois vulgariser, mais effectivement un chercheur qui ne ferait que de la vulgarisation, qui ferait partie de ces experts qui diffusent tous plus ou moins la même pensée qu'on voit sur les mêmes plateaux de télévision, ça serait pas un vrai chercheur, il ne produirait rien, il ne ferait que de la communication. Il faut trouver un équilibre.
Alors, clairement, aux États-Unis, c'est le pays des think tanks. Ils vont être quand même très engagés politiquement. Et vous expliquez qu'il y a eu une sorte d'accélération chez les Républicains au moment de la défaite contre Johnson en 64, et que la dernière victoire de Reagan et de Thatcher, derrière, on voit apparaître les premiers think tanks, dont le fameux Heritage Foundation, qui représente un peu l'idée des néo-conservateurs.
Oui, tout à fait. Alors bon, ça a été un processus un peu plus long et compliqué que ça, mais on peut dire que à partir des années 70, dans certains cercles républicains américains, on a constaté qu'au fond, ils avaient perdu le pouvoir idéologique. Hein. Les universités étaient, gagnés à des idées marxistes tiers-mondistes, en tout cas avaient une vision qu'ils estimaient peu conforme aux traditions américaines. Bon, c'était plein de hippies qui fumaient la marijuana, quoi, ou qui manifestaient contre le Vietnam, donc ils trouvaient ça horrible. Et d'autre part, ces conservateurs ne trouvaient pas leurs idées exprimées à travers la presse, qui était pour eux trop libérale. Alors, libéral au sens américain, c'est-à-dire gauchiste pour nous. Leur université leur était bouchée, l'édition aussi, il n'y avait pas de grands auteurs. Donc au fond, comment reconquérir le pouvoir politique? Pour ça, il faut reconquérir le pouvoir intellectuel. Donc c'est un raisonnement à la Gramsci.
À la Gramsci, hein, oui.
Totalement. Pourquoi? On va faire quoi? On va financer des centres de recherche qui vont produire des solutions, qui vont produire même des projets de loi, qui vont réagir vite, qui vont être très présents sur les plateaux de radio, de télévision, chez les éditorialistes, à qui on va apprendre à communiquer, et on va reconquérir le pouvoir comme ça. Globalement, ça marche. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer la vie politique des États-Unis par un complot de quelques intellectuels. Ça serait évidemment ridicule, mais disons qu'avec des circonstances historiques, économiques, sociologiques, que sais-je, favorables, ce mouvement intellectuel qui incarne parfaitement quelque chose comme Heritage a très bien fonctionné. Alors très bien fonctionné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que le président Reagan a recopié beaucoup de leurs projets, a appelé beaucoup d'entre eux dans l'administration, parce que les think tanks américains ne sont pas seulement des producteurs d'idées qui ont des projets de réforme, même très bien tournés et très bien défendus. Il y a une incroyable circulation des élites aux États-Unis qui fait que les chercheurs peuvent se retrouver demain secrétaire d'État, après-demain diriger une entreprise, dans 5 ans dans une université. Enfin, tout ça circule énormément. Et Reagan a également énormément pioché du personnel et des idées, même quelquefois quasiment des projets de loi chez Heritage et quelques autres. Alors, simplifions pas, il y a eu plusieurs strates, plusieurs couches dans cette droite intellectuelle. Les néoconservateurs sont pas les vieux conservateurs. Il y a eu un courant, disons, ultra-libéral, enfin inspiré par le retour libéral des idées de von Mises, qui s'est manifesté à travers la société du Mont Pèlerin, dont les représentants ont un peu sillonné l'Europe et le monde dans les années 80 pour diffuser ces nouvelles thèses. Mais on est devant un exemple assez étonnant de propagation des idées de manière délibérée, je dirais presque scientifique, par un groupe de professionnels. C'est de la conquête idéologique pure.
Grégoire Gambier.
Oui, bonsoir François Bernard Huyghe. Tout d'abord pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je voudrais souligner que, comme souvent, votre ouvrage sur les think tanks, quand les idées changent vraiment le monde, est évidemment très clair, très sérieusement documenté et sourcé. Il sait s'extraire de la langue de coton pour proposer une vraie recherche sans œillères sur le sujet. Mais je voulais revenir, vous avez un peu cité, enfin sans le citer, Pareto, sur la circulation des élites, et juste avant Gramsci, que Éric Delbecq et Alain Juillet citent également dans leur préface. Je voudrais juste vous poser la question, si on veut avoir une lecture marxiste, c'est juste comme ça, en passant, sur les rapports de force qui structurent le monde, donc Gramsci souvent cité, effectivement, peut-être pas toujours à tort, ce qui est pas votre cas là, pas toujours à raison, pardon, il y a quand même un rapport de force au bout d'un moment qui s'impose, et par exemple l'actualité immédiate, si on veut la décrypter au regard de vos recherches, où donc le recul d'un gouvernement sur un projet de loi suite à une manifestation de rue qui n'est qu'une manifestation parmi d'autres, mais qui à un moment donné impose un rapport de force qui n'est plus dans le domaine strict des idées des conclaves. C'est pas à Terra Nova en gros qu'a été décidé le fait de retirer la loi sur la famille. Donc est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas des rapport de force plus dans la rue qui s'impose malgré le travail en profondeur des think tanks?
Alors il ne faut pas faire de l'idéalisme ou de l'angélisme et penser qu'en produisant plus de volume que l'adversaire ou en ayant davantage de notes en bas de page, on finira par l'emporter. Donc les victoires idéologiques sont préparées en amont par la production doctrinale. Ils sont préparés par des actions d'influence et de communication, parce que avoir des thèses extraordinairement brillantes ne sert pas à grand chose si vous n'avez pas des vecteurs, si vous n'avez pas des associations qui les reprennent, des on va en parler en termes marxistes, quoi, des groupes sociaux qui se les approprient et qui changent l'hégémonie idéologique. Mais évidemment, il y a des rapports sociaux dans la rue, et évidemment, on ne peut pas analyser les événements des derniers jours en termes intellectuels éthérés par l'influence de tel ou tel auteur. Je dirais qu'en France, très peu de gens ont lu La théorie des genres de Madame Butler, et très peu de gens ont lu la brillante critique qu'en fait Alain de Benoist. Les gens ont réagi beaucoup plus sur des slogans, et je dirais même sur des affects. Hein. Pourquoi est-ce que ça a réagi aussi fort, me semble-t-il, sur un public qu'on peut présumer a priori plutôt catholique, traditionnel, etc., même s'il n'y avait pas que ça, c'est parce que symboliquement on a touché à l'enfant, et voilà. Et on sortirait du sujet des think tanks, mais dans le cas de la manif pour tous, alors il y a d'autres analyses qu'on pourrait faire en dehors des du fait que la France est en train de devenir de plus en plus à droite. On le voit dans les valeurs dans les sondages. C'est aussi le rôle des réseaux sociaux, le rôle de mobilisation qui se sont produites en dehors des partis traditionnels, des syndicats, des élites, des autorités. C'est un sujet passionnant, mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec les think tanks, même si, en cherchant bien sur le site de Terra Nova, on pourrait effectivement trouver des justifications de la stratégie de rupture sociétale du PS. mais c'est pas parce qu'ils l'ont lu dans Terra Nova qu'ils l'ont fait.
Justement, en parlant de cette actualité, vous parliez de Terra Nova qui est quand même assez proche du Parti Socialiste et
qui s'en cache pas.
Non. Et Fondapol qui est plutôt du côté de l'UMP. Est-ce qu'il n'y a pas une fragilisation des think tanks français qui sont très politisés par rapport justement à l'arrivée d'Internet, à l'arrivée des réseaux sociaux et peut-être à une information qui passe plus rapidement et qui est plus instinctive que les systèmes et les stratégies des think tanks?
Alors, les think tanks français, bon, je ne devrais pas le dire parce que je fais partie d'un think tank spécialisé dans les relations internationales, ne sont pas très organisés, très structurés et, disons, n'ont pas une influence à la mesure de la réputation intellectuelle de la France. Pour de nombreuses raisons, ça serait un peu trop long à expliquer. Mais une de ces raisons, c'est l'existence de clubs politiques qui sont plus là pour fournir des argumentaires, des dossiers pour le jour du grand débat à tel ou tel candidat. Le PS en a des tas. Certains étaient strauss-kahniens pour des raisons qui m'échappent totalement. Ils se sont reconvertis vers d'autres candidats il y a quelques années. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a pas le même système, c'est pas le même mode de conquête idéologique. Mais en dehors de ça, le think tank est effectivement concurrencé dans son rôle idéologique par les productions sur Internet, par des sites qui fleurissent et qui peuvent permettre un courant idéologique, de se trouver des arguments, de se renforcer dans ses convictions et d'aboutir sur des actions pratiques. Des actions pratiques, ça peut être une manifestation dans la rue, hein, par exemple.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous avons au téléphone François-Bernard Huyck pour son livre Think Tank, Quand les idées changent vraiment le monde, et une question de Grégoire Gambier.
Oui, encore une question qui est un peu décalée, si vous le permettez, François-Bernard Huyck. C'est plutôt vers la fin de votre ouvrage qu'est signalé, malgré tout, le fait que les think tanks existent, alors qu'ils soient français ou anglo-saxons, leur poids, leur puissance importe peu, mais en fait ont émergé au fur et à mesure où l'État, la sphère publique au sens réel du terme, a externalisé ou privatisé donc des fonctions qui étaient autrefois régaliennes. La fonction de penser le monde et de mieux peser sur son destin, c'était presque l'essence même de la sphère étatique. Comment vous expliquez ce phénomène et est-il quelque chose qui est mécaniquement inscrit, on ne pourra pas revenir en arrière.
Alors, soit mécaniquement inscrit, ça, j'aurais beaucoup de doutes là-dessus.
Oui, j'imagine bien.
Je dirais, bon, le phénomène n'est pas le même partout. Moi, je me souviens, j'avais visité un think tank américain et j'avais posé à mon interlocuteur, qui est un Français d'origine d'ailleurs, c'était à Hudson Institute, j'avais posé la question que tout le monde pose, mais pourquoi est-ce que la France est tellement différente des États-Unis? Pourquoi les think tanks ont-ils moins de pouvoir? Il m'a répondu, vous n'avez pas besoin de gens pour penser, vous avez l'ENA. Donc vous avez la réponse à toutes les questions. Bon, c'est un gag, bien sûr.
Oui, pas surtout pour des Français.
Mais en France, nous avons à la fois un pouvoir d'État qui est une tradition de, voilà, peut-être parce qu'on était un pays plus idéologisé, etc. Enfin, on peut trouver 500 explications, qui n'aimait pas tellement l'idée de déléguer à des chercheurs privés la réponse à ces problèmes. Bon, ça a changé, hein. Bon, voilà, on voit des institutions aussi hiérarchiques que l'armée. Bon, moi, je travaille pas mal pour l'armée, poser des questions à des think tanks et, bon, je dis pas qu'ils suivent forcément nos recommandations, mais en tout cas, ils nous posent des questions. Alors, aux États-Unis, en revanche, les think tanks ont un très grand pouvoir parce que, alors, probablement parce qu'il n'y avait pas beaucoup, pendant longtemps, c'était une société où il n'y avait pas d'extraordinaire clivage, où il n'y avait pas d'énormes différences politiques entre démocrates et républicains, enfin, pas autant qu'entre PC gaullistes, par exemple. Là-bas, on se tourne d'une manière incroyable vers des think tanks pour prendre des décisions hyper importantes. Alors, l'exemple qui est le plus, comment dirais-je, le plus hallucinant, le plus incroyable. Vous parliez tout à l'heure d'une décision souveraine. Alors, s'il y a une décision souveraine, grave, importante, politique par essence, c'est est-ce que je dois faire la guerre ou pas? Et si on la pousse à l'absurde, avec l'arme atomique, est-ce que je dois détruire le monde ou pas, et dans quelles circonstances? Eh bien, cette décision-là, d'une certaine façon, les États-Unis, pendant des années, l'ont déléguée à un think tank qui est très connu, qui s'appelle la RAND, Research and Development, et la RAND a produit de la doctrine de dissuasion atomique, comme elle a par la suite produit de la doctrine de la révolution dans les affaires militaires, de la cyberguerre. Enfin bon, tout ça n'intéresse peut-être pas beaucoup vos auditeurs, disons.
On mesure que ça n'a pas toujours produit des choses absolument mémorables. Enfin, en tout cas, qui étaient efficaces.
Ah oui, non, ça, je veux dire, le fait qu'ils produisent des doctrines, oui. Ça ne veut pas dire que ça réussisse. Alors, pour faire comprendre un petit peu ce que je dis était complètement intégré dans la culture américaine, peut-être que vos auditeurs se souviendront, du film Docteur Forlamour.
Ah oui, vous en parlez dans votre livre.
Film de Stanley Kubrick. Et dans l'argument de ce film est que la dissuasion atomique a été automatisée. Hein, pour qu'il n'y ait pas un élément humain qui intervienne dans la dissuasion par destruction mutuelle assurée, le président des États-Unis, sur les conseils d'un think tank, a délégué à un ordinateur la décision d'envoyer les missiles, et lui-même ne peut plus l'arrêter. De cette façon, il n'y a plus de facteur humain. Alors évidemment, l'histoire du film, c'est qu'il y a un accident qui se produit et que russes et soviétiques et américains, réunis dans la même place, dans la même pièce, ou se communiquant par téléphone, voient le déclenchement de l'apocalypse nucléaire sans rien pouvoir arrêter, parce qu'un cerveau d'œuf d'un think tank a eu cette brillante idée de dissuasion automatisée, et le crâne d'œuf est joué par Peter Sellers. Bon, enfin, ceux qui ont vu le film verront certainement.
C'est ce que vous appelez des futurologues, c'est ça?
Voilà, les futurologues. Et tout ça, tout ce scénario de Stanley Kubrick, bon, n'est pas inspiré de faits vrais, puisqu'il n'y a pas eu d'apocalypse nucléaire, mais est inspiré de personnages vrais. Et de textes de la RAND. Enfin, pour les Américains, il y a des allusions à Herman Kahn, aux futurologues, aux gens de la RAND, à qui la présidente des États-Unis déléguait effectivement ces décisions d'où pouvait dépendre le sort de la planète. Hein. Là, il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre pour un esprit européen.
Bon, on va peut-être terminer. Juste une dernière question. C'est vrai que on en a beaucoup parlé à l'époque, au moment de l'affaire du 11 septembre. C'est là qu'on a entendu cette influence des think tanks vis-à-vis de la politique américaine. Les néoconservateurs, on les a un peu oubliés. Ils avaient même, dans votre livre, vous dites qu'ils avaient créé quasiment un cercle autour des intellectuels français qui s'étaient mis en place. Cette idéologie des néoconservateurs, elle est totalement oubliée. Elle a été jetée à la poubelle, ou il y a une chance de pouvoir les revoir le jour où les républicains reviennent au pouvoir?
Une chance à un risque, vous voulez dire, sans doute.
Oui, demander
aux Ukrainiens, Patrick.
Je ne considérais pas ça du tout comme une chance. Il y a un risque. Alors, si les républicains reviennent au pouvoir, alors je crois qu'en ce moment, les républicains, malgré l'impopularité d'Obama, font de grands efforts pour ne pas revenir au pouvoir. Et ceci est une autre question. Est-ce qu'ils pourraient revenir? Oui, peut-être, en dépit du fait qu'ils se soient complètement discrédités à travers l'affaire des armes de destruction massive, les guerres d'Irak qu'ils ont appelées de leur vœu pendant des années. Il faudrait discuter très longuement sur ce qu'on entend exactement par une stratégie néoconservatrice. Il me semble qu'en France, au moment de l'affaire de Syrie, on a vu des cercles, la présidence de la République ou le ministre des Affaires étrangères prendre des positions, je n'ai pas dit néoconservatrices, mais disons qu'ils n'ont fait aucune peine aux néoconservateurs qui en ont écrit des pages très élogieuses.
Oui, parce qu'il y avait, je le disais tout à l'heure, il y avait un cercle qui avait été créé un proche de Dominique Strauss-Kahn, et ce cercle, il existe encore, il a encore une influence en France.
C'est le cercle de l'Observatoire, oui, donc j'ai plus les noms encore. pense pas qu'il ait une énorme activité, dans la mesure où il s'agissait plutôt d'un cercle d'intellectuels, et les intellectuels, bon, hélas j'en suis un, sont des gens un peu qui se découragent au bout d'un certain temps, en tout cas quand ils ne sont pas tirés par la lumière des projecteurs. Non, c'était pas un vrai think tank, c'était plutôt un cercle doctrinal ou intellectuel d'influence, comme on en trouvera de rattaché à diverses idéologies. C'était pas un think tank qui produisait des études, qui voilà. Moi, quand je vais à l'IRIS, on va dans un truc où il y a des gens sur plusieurs étages qui sont tous en train de travailler sur des appels d'offres, de produire, d'éditer plusieurs revues. On enseigne, voilà. Donc, on est dans une activité vraiment permanence d'un intellectuel collectif, tandis que là, on est vraiment dans des cercles idéologiques qui... et la définition de... Bon, on a beaucoup parlé de marxiste, mais je vais vous donner une définition d'idéologie qui est d'Althusser, c'est quand les réponses précèdent les questions.
Bon, bah, très bien, bon, on va terminer avec Althusser. Merci beaucoup François Berderhuig d'avoir donné de votre temps. Je rappelle aux auditeurs, c'est Think Tank, quand les idées changent vraiment le monde, avec une préface d'Alain Juillet et d'Éric Delbecq aux éditions Vuibert. Merci. Eh ben, mon cher Philippe, on va enchaîner. Tout de suite, hein, vous avez la possibilité de reprendre la parole pour une actualité européenne.
Oui, je voulais simplement poursuivre peut-être sur le après cette pause intellectuelle bienvenue sur la suite des opérations en Ukraine. Donc là, je vais revenir sur le temps court, hein, parce qu'évidemment, et puis Grégoire Gambier faisait allusion dans une remarque tout à l'heure, se pose la question qui est-ce qu'une partie de l'Ukraine la partition de l'Ukraine ne risque-t-elle pas d'être la porte de sortie? Problématique des partitions, on l'a vu, donc d'abord, premièrement, j'en sais rien. Deuxièmement, il est évident qu'il y a une ligne
au
de
moins
fracture.
C'est honnête. Il faut commander l'étude à un think tank.
Ce qui vient d'être dit sur les futurologues, si vous voulez. D'autant plus que, à ce micro, mon cher Patrick, vous vous en souvenez, dès 2003, on n'a pas été si mauvais que ça sur l'Ukraine, dans ce qu'on annonçait, et donc je voudrais pas gâcher une belle trajectoire, parce qu'en règle générale, on essaye de faire un peu de prospective quand on a des choses à dire, mais là, non, plus sérieusement, évidemment, tout le monde nous serine les deux blocs, à savoir un bloc de l'Ouest beaucoup plus attiré par l'influence polonaise, avec une minorité russophone qui est inférieure à 10%, et de l'autre côté l'extrême inverse. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats électoraux, les succès du parti des régions de Yanukovych, et puis des succès d'année du côté orangiste, les majorités suivent exactement ces contours-là. Il est évident que, avec ce qu'on vient de vivre sur le Kosovo, qui, je rappelle, n'est toujours pas reconnu par d'éminents pays européens, à commencer par l'Espagne, pour les raisons qu'on imagine, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de la Hongrie, on aurait pu mettre aussi au crédit de Viktor Orban les récentes lois sur l'octroi de la nationalité hongroise qui ont donc permis de donner à 550 000 Hongrois la nationalité alors qu'ils sont en dehors des frontières. Vous souvenez que le traité de Trianon en 1919 a été particulièrement dur pour la Hongrie. Et donc cette option de la scission n'est évidemment pas une option, sauf peut-être dans le jeu des Américains, puisque dans la logique justement de containment de la puissance russe, ce serait une occasion en or de remettre une frontière supplémentaire. Cette fois-ci, elle ne serait pas entre Serbes et Albanais ou entre chrétiens et musulmans, elle serait entre catholiques et orthodoxes. On peut faire une émission complète sur le rôle que joue l'Église uniate sur le sujet. On va pas le faire.
On va pas le faire.
Mais on pourrait. Mais on pourrait. Ça fait partie des interférences qui là aussi ont une histoire, une légitimité au regard de l'histoire, moins en regard du droit international. Je vais vous donner un exemple tout bête de ces logiques de partition de peuples. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous l'avez suivi, mais figurez-vous là, si des auditeurs connaissent cette information, qu'ils m'écrivent, je leur enverrai quelque chose, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça. C'est, figurez-vous qu'il y a eu 3 référendums dimanche, Patrick, en Gagaouzie.
D'accord.
C'est pas une blague.
Nous de notre côté, on connaît avec
la Gagaouzie,
mais pour les auditeurs,
la Gagaouzie, c'est un district autonome de la Moldavie. Donc la Moldavie, pourquoi je parle de ça, puisque au titre du partenariat européen que l'Europe de Bruxelles a proposé, notamment aux Ukrainiens, il y avait plusieurs pays qui étaient visés. Il y avait l'Arménie qui a refusé, l'Ukraine qui a refusé, la Géorgie qui a dit oui, et la Moldavie qui a dit oui également. Puisque la Moldavie, on s'en souvient, la Moldavie, c'est l'ancienne Bessarabie roumaine qui avait été récupérée par les Roumains sur les Russes en 1918, les Roumains s'étant ayant basculé dans le camp des vainqueurs, les Roumains, les salauds de la guerre, disait Poincaré.
Il y a d'autres, oui, ok.
Donc c'est Poincaré. Hein.
Oui. Non, mais vous faites bien de citer votre source.
Oui, je cite ma source. Et d'ailleurs, j'hésite, je me demande si c'est pas Clémenceau, d'ailleurs.
Oui,
je pense que c'est plus
encore
Clémenceau.
Pire, hein. Oui,
beaucoup mieux. Bref, en 1945, le sort des armes a été différent. Donc les Russes ont récupéré cette province pour en faire une république socialiste, celle de Moldavie, qui a donc eu son indépendance et qui aujourd'hui est fortement courtisée, bien évidemment, par l'OTAN. L'Union européenne, puisque c'est une terre à influence russe qu'il conviendrait d'attacher, d'arracher à Moscou. Et donc, la Moldavie a évidemment saisi la main de l'Union européenne, sauf qu'il y a en Moldavie donc les fameux Gagaouzes, voilà pourquoi je veux en parler. Alors, les Gagaouzes, ce sont des turcophones chrétiens, orthodoxes. Il faut suivre, mais c'est une combinaison qu'on n'avait pas forcément. Hein, on en avait. Bon, bref.
La Transnistrie.
La Transnistrie, c'est de l'autre côté, mais on va pas y revenir parce qu'ils sont. Mais bon, bref.
Eux, ils sont vraiment pros.
Non, mais la Transnistrie, c'est justement une région autonome créée par les Russes parce que c'est le lieu de cantonnement de l'ancienne 9e armée russe qui était faite justement pour faire une sécession de la Moldavie, pour affaiblir la Moldavie puisqu'elle regardait trop vers l'est, et donc la frontière entre la Transnistrie et la Moldavie. C'est le Dniestre.
Oui, mais là, on va s'y perdre. Là.
Et donc, alors, tout ça pour dire que les Gagaouzes ont fait un référendum sur le thème « Est-ce que nous, Gagaouzes, on veut de cette intégration à l'Union européenne ?» Donc, si on regarde géographiquement, la Gagaouzie, comme c'est un district qui est à l'est de la Moldavie, c'est donc à l'ouest de l'Ukraine. Hein, vous me voyez.
Donc
totalement jointe à ces populations qui sont censément volontaires pour se rallier à l'Union européenne. Mais écoutez, avec un taux de participation de 70%, les gens se sont exprimés à 98% des voix en faveur d'une union douanière avec la Russie, à 97% contre une intégration plus poussée à l'Union européenne, et 98,9% des votants ont affirmé le droit de la Gagaouzie à l'indépendance dans le cas où la Moldavie devrait abandonner sa souveraineté. Donc, bien évidemment, je ne sais pas plus ce qui va arriver aux Ukrainiens qu'aux Gagaouzes, mais ce que je veux dire,
les 373 Gagaouzes,
électeurs Gagaouzes, c'est ça. Non. Et donc, ce qui est effectivement intéressant, c'est que bon, ben voilà, les Gagaouzes, eux, comme ils ont peur d'une seule chose, c'est que ce rapprochement à l'Union européenne amène à l'absorption de la Moldavie par la Roumanie. Je vous rappelle d'ailleurs que une des principales revendications du parti de Grande Roumanie, c'est justement la récupération de la Moldavie, appelée maintenant Bessarabie, etc., etc. Donc bien évidemment, je ne sais pas ce qu'il va en advenir. Ce qui est certain, c'est que Poutine est à la fois à plus de cartes et plus armé qu'il ne l'était précédemment pour trouver une solution à l'ukrainienne. L'Europe a un inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas mettre sur la table les sommes que la Russie met sur la table pour sauvegarder l'économie ukrainienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que L'Ukraine a certes un président élu qui s'appelle Yanukovych, mais les grands oligarques qui sont à la tête des principaux combinats, des principales énergies et entreprises du pays, sont toujours restés en politique. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, parce que c'est que on nous explique dans les journaux que c'est scandaleux, parce que vraiment c'est les oligarques qui font plier le pouvoir et pas la démocratie qui manifeste, parce que en Ukraine, les oligarques n'ont pas été chassés des sphères du pouvoir comme en Russie. C'est-à-dire qu'on finit par, par défaut, rendre hommage à Poutine d'avoir nettoyé les oligarques de la sphère politique du pays, ce que je trouve assez drôle. Voilà, on va
avancer. C'est la dernière nouvelle, parce que vous avez plein de livres à nous présenter.
Il y a plein de livres.
Oui, alors avant ça,
vous avez lu énormément, c'est incroyable.
Avant ça,
je voudrais vous donner quelques nouvelles de nos provinces et régions d'Europe. J'ai évidemment perdu mon papier, mais je vais le retrouver. D'abord, pour vous dire qu'on a le premier sondage pour les élections européennes pour l'Alternative für Deutschland. Hein, vous savez, c'est le parti eurosceptique allemand qui a réussi un score vraiment inespéré aux dernières législatives en septembre avec 4,7%. C'est un très beau score, ça n'a pas permis de rentrer au Bundestag.
Oui.
Mais voilà, maintenant c'est 7%, sachant que le seuil pour avoir des députés est à 3% en Allemagne pour les élections européennes. Et donc, ça y est, le samedi dernier, l'Alternative für Deutschland a investi ses candidats pour les européennes. Donc, le candidat en deuxième position, c'est un renfort de poids, c'est Hans-Olaf Henkel, l'ancien patron des patrons allemands, c'est-à-dire l'équivalent de notre Gattaz ou de notre brave et populaire Seyer. Et donc, aujourd'hui, le slogan, ce sera « Du courage pour l'Allemagne » et il n'y a pas une inquiétude, il n'y a pas une panique, mais il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est que ça met évidemment la CDU en porte-à-faux. Et le deuxième bénéfice, c'est que les conservateurs de la CSU, eux, qui ont toujours été plus courageux, du coup, se rapprochent de plus en plus des thèses anti-européennes de Alternative für Deutschland, et notamment lorsqu'il s'agit de retrouver pour l'Allemagne des degrés de souveraineté et de décision en ce qui concerne l'immigration.
Et ce mouvement, oui, Grégoire, qui...
Oui, ce qui serait une nouveauté, je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie, Philippe Christel, si ça devait s'avérer, puisque la CSU n'a jamais été la dernière des plus atlantistes au sein des partis politiques allemands. Donc ce serait un basculement considérable, en tout cas, puisqu'on parlait avec François-Bernard Huyghe il y a 10 minutes de l'influence des idées, la façon dont elles abreuvent et conditionnent le discours et donc les débats politiques, on serait vraiment là, ce serait plutôt extraordinaire.
Alors, c'est habile transition, parce que justement la nouvelle coalition qui vient d'être au gouvernement en Allemagne, hein, vous savez, donc c'est une nouvelle grande coalition, a reconduit il y a deux figures importantes, c'est la reconduction à la ministère des Affaires étrangères de Frank-Walter Steinmeier, qui était le collaborateur de Schröder, qui était la cheville ouvrière du pacte Berlin du rapprochement Paris-Berlin-Moscou à l'époque de la deuxième guerre en Irak, et qui a repris donc les commandes du Quai d'Orsay allemand avec beaucoup plus de talent que le fad Westerwelle qui l'occupait précédemment et qui lui était complètement atlantiste. Steinmeier passe pour être très conciliant avec Moscou, c'est surtout un diplomate qui a le sens des réalités, et ses premières discussions ont justement été l'occasion de remettre au bon niveau la relation avec la Russie, en plaçant d'ailleurs la Chine et la Russie au même niveau pour la diplomatie allemande. J'aurais voulu, mais on le fera peut-être la prochaine fois, qu'on passe un peu de temps sur cette fameuse conférence pour la sécurité de Munich, qui est le rendez-vous annuel de la diplomatie et de la géopolitique européenne, et l'Allemagne, là aussi, commence à redéfinir sa relation au reste de son voisinage, et notamment vis-à-vis de la France, notamment vis-à-vis de la Russie. Toute la question, c'est est-ce que je prends 100% le relais des Américains qui quittent, ou est-ce que je profite de cette place-là pour faire autre chose? C'est forcément un sujet sur lequel on va attendre un petit peu, mais il y aura des choses à dire. J'ai parlé donc de l'Alternative für Deutschland, je parle 30 secondes, parce que ces élections européennes vont être passionnantes, du phénomène de UKIP. UKIP, le parti souverainiste et europhobe anglais, est lui aussi en tête des instances de vote aux élections européennes. Je n'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais saluer pour une fois, je vais dire du bien de Marine Le Pen, ça arrive pas
vous
souvent.
Vous venez déjà dire du bien des Anglais, Philippe Christel. La pente est prise.
Exactement. J'ai quand même assisté avec satisfaction à
ce rapprochement qui a eu lieu courant janvier entre le Front National et la Ligue du Nord italienne.
Bien sûr.
Le quotidien de la Ligue du Nord, qui s'appelle la Padania, a utilisé l'expression pour dire entre les deux formations, et on avait scellé un pacte de fer. Ceux-là, ils se souviennent du pacte d'acier. Hein. Donc, ah ouais. Là, je pense que
c'est un peu moins bien, mais enfin,
pour
bon.
Dire, hey, les gars, cool, hein, sur les textes, sur les titres.
Bon, alors, on leur souhaite surtout un meilleur succès.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis longtemps, donc voilà cette coalition qui se met en place entre, bien évidemment, les Flamands du Vlaamsbelang, les Autrichiens du FPE, la Lega Nord, et puis les Néerlandais de Geert Wilders. Ce qui est intéressant, puisque ces partis avaient, à l'époque où ils avaient eu un choix, avaient plutôt, et alors que le succès était loin d'être établi, nettement fait le choix plutôt de Bruno Maigret que de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, nécessité faisant loi,
la réelle politique,
s'exerce. Ce qui est intéressant, c'est que on sait très bien que la Lega Nord a plein de raisons d'être, de penser différemment l'Europe que le Front National. Le FN est un farouche partisan de l'État-nation. La Ligue du Nord prône une Europe des peuples, si ce n'est des régions. La Ligue du Nord a ce côté parti d'entrepreneurs et d'industriels. Je vais pas dire CSP+, parce que je veux pas faire de darwinisme social, alors que le FN surveille quand même plutôt, essentiellement, veut la préservation de l'assistanat à la française. Bref, il y a là des différences qui ont été, semble-t-il, surmontées. Il faut que cela résiste, bien évidemment, au verdict électoral et au fait qu'il y aura des groupes à construire, des présidences à attribuer. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, et donc c'est un encouragement à persévérer que nous décernons en grande modestie.
Surtout que sur les différents...
je pense qu'ils besoin de nous.
Non mais c'est important.
Oui, je pense que pour une fois c'est important.
Surtout que les différences que la presse a mis entre effectivement la Ligue du Nord ou le Front National, on retrouve ces différences dans les partis socialistes européens ou à la droite où on n'a pas affaire forcément à des partis qui sont exactement sur la même ligne.
Non mais on retrouve même des différences, mais en tout cas des tonalités qui traversent même et le FN et beaucoup de partis.
Oui.
C'est pas si simple.
Non mais je veux dire, vous prenez les Verts européens, je crois qu'il y a une énorme différence entre les Verts allemands et les Verts français quand ils sont ensemble. Hein.
Pas tellement sur les mœurs, mais enfin, c'est pas le sujet.
Alors, vous avez beaucoup lu.
Oui, quelques conseils de lecture, parce que je voudrais faire partager des choses aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc c'est pas souvent, mais c'est l'occasion. D'abord, première chose, premier coup de cœur, qui est pas très original, mais c'est le dernier recueil de nouvelles de Sylvain Tesson. Ce recueil est titré « S'abandonner à vivre ». On ne présente pas Sylvain Tesson aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Qui a eu une émission.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne le présente pas. Et donc, il y a, comme d'habitude, une quinzaine de nouvelles. Elles sont toujours superbement écrites. Elles sont très drôles. On flirte là avec une certaine absurdité du monde. On retrouvera la patte Tesson. Et puis, certain nombre d'entre elles sont vraiment très drôles. L'avant-dernière qui se passe sur les pistes de ski en Suisse, elle est vraiment à hurler de rire. Et je vais vous citer simplement un petit paragraphe, puisque évidemment, il y a des nouvelles qui mettent en scène des Russes et des Français. Et donc là, c'est la nouvelle qui s'appelle « L'ennui ». Qui parle d'une jeune Russe qui vient vivre en France, et je vous lis juste ce petit paragraphe. Elle savait que ces Français n'aimaient pas les Russes, qu'ils tenaient les Slaves de son genre pour des louves vénales et les mâles mougiques pour des brutes. Pour s'en convaincre, il n'y avait qu'à allumer l'écran plasma du salon et à écouter ce que les chaînes d'information déversaient sur son pays. Des nanas de 20 ans, nées dans un paradis élevé entre Sciences Po et la Toscane, bégayaient leur lieu commun sur la violence politique du Kremlin, la pesanteur héritée du système soviétique et le bafouage de la démocratie par des satrapes demi-asiates. Aucune ne se doutait du délabrement du bateau post-soviétique dont avaient hérité les autorités. 12 fuseaux horaires ensanglantés par près d'un siècle de démence socialiste ne se pilotent pas comme un duché bancaire de l'Europe baroque. Voilà, tout est à l'avenant. Et donc, je vous le conseille, S'abandonner à vivre, Sylvain Tesson, chez Gallimard. Chez Gallimard, toujours, je suis tombé. Mais non, c'est idiot, mais c'est un vrai coup de cœur. Je suis tombé sur un tout petit texte, je pense que ça fait 25 pages, de Giono. C'est une nouvelle, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Alors vraiment, je vous la conseille. Faites-la lire à vos enfants.
Il y a même un
superbement écrit. C'est extraordinaire. C'est d'une beauté sur le temps long et sur la nature. C'est extraordinaire.
Et Philippe, je vous conseille. Il y a eu un film d'animation qui a été fait par un grand illustrateur alsacien et qui a fait un.
Ah bah c'est extraordinaire.
Alors un superbe film d'animation là-dessus.
Pour la petite histoire, l'histoire de cette nouvelle, c'est le Reader's Digest qui demande à Giono dans les années 50, envoyez-nous un texte sur un type extraordinaire que vous auriez rencontré. Alors Giono, il envoie son document, et puis alors on lui redit, bah, je suis super, félicitations, bravo, etc. Et puis, 6 mois plus tard, il reçoit toujours du Reader's Digest une lettre d'insulte sur le thème, mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Vous avez inventé, en fait, c'est une histoire, ça n'a jamais existé. Et Giono de répondre, mais écoutez, je suis romancier, moi, qu'est-ce que vous croyez que j'allais vous inventer? Bon, enfin, c'est marrant. Donc, je vous cite également, j'ai lu, alors, plus, ça, il faut en parler parce que l'auteur, alors, évidemment, je vais parler de Gabriel Matzneff, qui vient de faire paraître aux éditions Léo Cher son nouvel opus, puisque c'est en gros le tome 2, d'une sélection de courriels qu'il appelle des Émiles. Donc, ça s'appelle Les Nouveaux Émiles de Gab Larafal, courrier électronique. Ce sont des Émiles, comme il dit, qui couvre la période de début 2010 jusqu'à vraiment fin 2013. C'est très intéressant parce que d'abord il y a un style qui est splendide, il y a quelques belles perceptions et belles réflexions notamment sur ce que la France devient et sur la projection de la France à l'étranger, puisque Matzneff passe une partie significative de son temps en Italie et à Venise. Après, comme toujours avec ces grands auteurs écorchés vifs, il y a un petit peu de narcissisme et d'égocentrisme qui parfois peut lasser le lecteur, mais j'ai trouvé que, comme il le dit lui-même dans sa préface, le courriel nécessite une certaine maîtrise de la langue pour faire passer une ou deux idées en peu de signes, et donc il y a sont une multitude d'exercices de style que, mine de rien, je vous conseille. Donc Les Nouveaux Émiles de Gab Larafal de Gabriel Matzneff, qu'on ne présente plus non plus, aux éditions Léo Cher.
Il y a des courriels avec des moins de 16 ans, ou c'est plus...
Oh non, vous avez pas, vous avez tout gâché. Donc Philippe Christel,
dise
du bien de Gabriel Matzneff, déjà c'était quelque chose, et là vous partez dans
quelque chose. J'en dis du mal, je l'avais pas lu.
Non mais j'accompagne, c'est juste pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Voilà. Non mais je pense qu'il y a une
sélection.
Donc d'abord le livre est parfaitement est totalement lisible, il est tout public, si c'est ça que ça sous-tendait. Il est évident qu'il y a quelques éléments de correspondance qui témoignent d'un affect particulier et qui sont dont le manque de pudeur, moi, me gêne. Mais je m'en suis remis et je m'en remettrai.
Bon, bah, c'est parfait.
Et alors là, on est moins dans la pudeur, là, on est plus dans le savoir. Je voudrais vous faire part de la réédition de deux ouvrages qui vont passionner les spécialistes de la question aux éditions Déligolande. Les éditions Déligolande, qui sont en Normandie avec un nom pareil, c'est évident, font un très joli travail de réédition et d'exhumation de textes qui ont trait aux mythes et légendes du monde nordique et du monde scandinave. Et en l'espèce, ils ont réédité deux bouquins. Le premier s'appelle « Mythologie scandinave, la légende des Eddas » par Rasmus Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N,
donc, très bien,
aux éditions Déligolande. Donc ça, c'est le plus simple, on va dire que c'est un livre de mythologie. Hein, donc c'est un...
Alors, pour les auditeurs, le fameux livre de Jean Mabir, Les Dieux maudits, il a travaillé à partir de ce livre-là.
Oui, parce que c'est un texte du 19e siècle.
C'est un texte du 19e.
Ça s'inscrivait quand même dans un contexte particulier qui n'a pas concerné que les pays scandinaves, qui étaient effectivement
de retrouver les racines.
Les collectionneurs qui cherchaient ce livre, parce que effectivement dans l'introduction du livre de Jean Mabir, Les Dieux maudits, il le cite, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont recherché, et ça y est, il a été réédité aux éditions
Voilà, absolument. C'est le donc vous avez bien fait la fin de mon de ce que je voulais raconter. C'est très bien, on est en ligne.
Ah bon,
et donc c'est effectivement une réédition très attendue. Et alors il y en a une deuxième. Le titre de l'ouvrage, c'est Le secret de l'Atlantide, l'empire englouti de la mer du Nord, d'un Allemand qui s'appelle Jürgen Spanuth. Et là aussi, c'est une réédition d'une traduction de ce livre qui avait été faite en 1977, à l'époque édité par les éditions Copernic. Pour faire très simple, je vais rappeler que dans les différents écrits des Grecs, et notamment dans le Critias de Platon, on fait mention de l'Atlantide, et on suppose que l'Atlantide pourrait se trouver très au nord, dans la mer du Nord, et notamment que l'île d'Heligoland, qui est aujourd'hui un superbe caillou avec plein d'oiseaux et quelques baraques de pêcheurs et pas beaucoup, que Heligoland pourrait être ce qu'il reste du continent disparu de l'Atlantide. Et donc le bouquin de Jürgen Spanut consiste à une véritable recherche, si ce n'est une quête de ces traces de l'Atlantide sur Heligoland et ses environs. Et aujourd'hui, Spanut raconte, avec des preuves qui sont des preuves géologiques, géographiques, archéologiques, raconte que effectivement c'est ce grand royaume englouti du XIIIe siècle avant notre ère qui laisserait la trace d'Heligoland en mer du Nord, et que donc oui, Platon a raison, les fameux guerriers que les Grecs et notamment Pythéas le Massaliote ont rencontrés sur les routes de l'Ambre, eh bien ces guerriers du Nord sont bien les fils de l'Atlantide logés sur les bords de ce qui est aujourd'hui la mer Noire. Donc voilà, fascinant, passionnant, Le secret de l'Atlantide de Jürgen Spanut aux éditions d'Heligoland, qui font un très gros travail pour retrouver ces jolis écrits.
Grégoire, vous avez un petit coup de cœur.
Oui, tout à fait. Le numéro en kiosque de la Nouvelle Revue d'Histoire, si vous permettez, on va revenir sur des sujets peut-être plus géopolitiques et encore. Donc, il est consacré aux guerres balkaniques, mais simplement, j'ai repéré trois articles qui pourraient plus particulièrement intéresser les auditeurs des Chroniques de la Vieille Europe. Je veux parler de celui de Tancrède Josserand sur les guerres balkaniques, avec une explication. Alors, les guerres balkaniques, c'est les guerres des Balkans, c'est le sujet central de ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire en kiosque, qui prépare bien l'année 1914, puisqu'on est dans les prémices de la guerre de 14. Et l'article de Tancrède Josserand, j'ai trouvé d'autant plus intéressant qu'il explique, parfois en creux, mais quand même assez clairement en conclusion, le sursaut nationaliste, kémaliste, par le repli, justement, sur le Lebensraum anatolien des Turcs, suite, donc, justement, au reflux ottoman dans les Balkans. Donc c'est une explication que l'on voit pas toujours, enfin voire rarement, et je trouvais qu'elle était bien amenée par Tancrède Josserand dans la Nouvelle Revue d'Histoire. Le deuxième article que j'ai repéré pour nos auditeurs, c'est celui d'Yves Nantillet sur la politique, sur Valéry Giscard d'Estaing, et plus exactement sur sa politique extérieure et de défense, qui est une partie de son article, puisque c'est un bilan du septennat de VGE. Ça va vous faire plaisir, Philippe Christel, parce que ce que j'ai bien aimé,
c'est un peu oublié.
Je
me demandais si vous citeriez cet article-là, parce que sinon je l'aurais fait, parce qu'il m'a effectivement beaucoup plu. On se rend pas compte, mais c'est l'âge qui avance, c'est que maintenant nous avons l'âge, le temps et le moment, et c'est le moment de faire le bilan de ce type de prendre vraiment de la hauteur. Et j'ai trouvé qu'il y avait là en quelques pages une vraie prise de hauteur sur ce septennat qui échappe aux caricatures politiques classiques, le regroupement familial, très bien. C'est-à-dire c'est mentionné, mais il y a une vraie prise de hauteur. C'est passionnant comme article.
Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé aussi, donc, et pour les auditeurs, c'est que sur la politique extérieure et de défense, on est bien dans on l'oublie maintenant, que Giscard était dans s'est inscrit dans une tradition gaullienne, mais pas gaulliste. C'est pour ça que je me permets de vous le signaler, Philippe Christel, parce que je connais votre attachement à la figure du général, parce que sa politique de défense a notamment consisté à réhabiliter et moderniser les forces conventionnelles, et plus particulièrement l'armée de terre. Et vous vous souvenez, les auditeurs de Radio Courtoisie, sûrement aussi, que cette armée de terre avait été sacrifiée par De Gaulle et ses différents gouvernements au profit de la force de dissuasion, bien sûr, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, pour faire payer aux meilleurs régiments de l'armée de terre leur fidélité à la parole donnée de conserver l'Algérie à la France. Oui. Donc, je trouve que l'article met bien en valeur aussi le fait que cette politique a pu rattraper des errements, pour ne pas dire du ressentiment qu'on en a pu constater chez De Gaulle antérieurement.
Même si Giscard commence à amener tranquillement le sujet de la France puissance moyenne.
Oui, non, mais il y a plein de choses négatives, hein, mais c'était juste pour signaler cet aspect. Ben, l'article fait assez bien, je pense que le tout, enfin, il est sourcé sur un bouquin qui vient de sortir et qui est tout à fait intéressant et dont l'auteur, je crois, a été invité sur Radio Courtoisie la semaine dernière. Le dernier article est celui d'Emma de Mester sur Gaston d'Orléans, donc qui a été longtemps considéré comme velléitaire par la postérité, avec une réputation quand même fabriquée par ses ennemis, mais qui représentait une autre option de l'évolution de la monarchie, non pas vers l'absolutisme, hein, qui a préparé en partie l'avènement du jacobinisme républicain, mais bien vers un retour, au moins une conservation du caractère foncièrement aristocratique de la monarchie capétienne originelle. Alors, ça peut paraître décalé par rapport à notre émission, mais pas du tout, puisque cette dichotomie existe toujours politiquement, y compris au sein du camp national, si l'on mesure l'abîme entre les tenants du devoir de révolte, toujours disponible posé à descendre dans la rue, pas plus tard que dimanche dernier et le dimanche précédent et encore le dimanche précédent, donc trois dimanches de suite, hein, à peu près les mêmes ou pour des raisons à peu près proches, et ceux qui préfèrent les plateaux de BFM TV et d'ITélé et considèrent que toutes ces agitations sont en fait des opérations de diversion au préjudice finalement de l'État. Hein, l'État, ses institutions, et donc ses déficits. Donc je trouve que cet article est tout à fait intéressant et très actuel sur Gaston d'Orléans, d'Emma de Mester, dans la Nouvelle Revue d'Histoire.
Et on y apprend d'ailleurs que l'éloge funèbre, j'ai appris ça, l'éloge funèbre de Gaston d'Orléans avait été interdit de communication par le grand roi Louis XIV, qui ne souhaitait pas que cela se sache. Déjà, la raison d'État s'occupait de faire l'histoire comme elle le souhaitait.
Merci bien, on va juste, moi j'ai juste dire aux auditeurs que le nouveau numéro d'Éléments, le numéro 150 est sorti, c'est pourquoi les élites ne veulent surtout pas de la démondialisation, et il y a les extraits du livre de mémoire de Jean-Claude Vallat qui est vraiment aux éditions Alexis Pharma, qu'il faut à tout prix acheter, et vous avez toute sa vie qui est assez intéressante sur la création du Grèce, ces années de jeunes militants, et aussi il y a un passage extraordinaire d'un article de Bernard-Henri Lévy qui déjà dans les années 80 était arrivé à faire éjecter toute l'équipe de la Nouvelle Droite, et je vous conseille donc le numéro d'Éléments, il est en kiosque, le numéro 150, et aussi rapidement le numéro de Rébellion, le numéro 52, face à la barbarie capitaliste, proposons l'alternative. Je l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, mais je suis sûr que, comme d'habitude, c'est un excellent numéro. Voilà, on a terminé. On va vous donner rendez-vous dans 4 semaines pour une nouvelle émission, et j'espère qu'on aura cette fois-ci un invité sur le plateau pour en parler plus longuement. Mais on remercie bien sûr François Berderhuig de nous avoir eu au téléphone. Bonne soirée à tous et restez sur Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit,
when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I'll change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.